RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et la guerre dans l'est de la RDC qui est à la une, car le sujet était à nouveau évoqué au Conseil de sécurité des Nations Unies hier. Kinshasa accuse à nouveau le Rwanda qui dit, lui, se défendre simplement. On sera à New York dans quelques instants. Le concert Solidarité Congo finalement reporté. Demande du préfet de police de Paris. La nouvelle date reste à fixer. 5 ans de prison prononcée en Algérie contre Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien reconnu coupable notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Le président français réagit, il dit compter sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour que l'homme de 80 ans retrouve la liberté. Le sommet Nutrition for Growth qui se refermera aujourd'hui à Paris avec déjà sur la table 27 milliards de dollars promis pour la lutte contre la malnutrition. Et puis, quand l'homme reste une menace pour l'animal au Tchad, dans le parc du Zakouma, des braconniers ont abattu les 2 derniers rhinocéros noirs femelles, une espèce pourtant déjà menacée d'extinction. La guerre dans l'est de la RDC à nouveau à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies hier à New York, à l'occasion d'une nouvelle passe d'armes entre les gouvernements congolais et rwandais. Kinshasa a en effet accusé Kigali de mépriser de façon flagrante le processus de paix en continuant à soutenir les éléments de l'AFC M23. Réponse en face du chef de la diplomatie rwandaise. Son pays ne fait que se défendre et les soldats rwandais ne sont pas activement impliqués. Compte rendu sur place, signé Karine Houghton.
Depuis un mois, l'Alliance Fleuve Congo et le M23 se sont emparés de larges portions du nord et du sud Kivu. La chef de la MONUSCO décrit une situation humanitaire qui s'empire à cause du système bancaire hors service ou des mauvaises infrastructures qui ne permettent pas l'acheminement de denrées. Elle a demandé la réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu. Les ambassadeurs de RDC, de l'Angola, du Burundi, comme l'ensemble du Conseil, ont réclamé un règlement politique. Le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nuhundi, a refusé de confirmer à la presse le nombre de soldats rwandais déployés côté congolais.
Au Rwanda, nous avons déployé des mesures défensives le long de notre frontière pour nous défendre contre les menaces émanant ces 30 dernières années de l'est de la République démocratique du Congo. Les milices et les groupes qui travaillent pour le gouvernement de Kinshasa ne veulent que renverser le gouvernement rwandais.
Le ministre des Affaires étrangères rwandais a aussi attaqué à charge la MONUSCO, l'accusant de tordre les faits, de ne pas être neutre et d'avoir failli à sa mission de démanteler les groupes armés congolais, malgré le soutien unanime du Conseil pour la force onusienne. Karine Houghton, New York, RFI.
La mairie de Paris avait souhaité son interdiction. Le concert Solidarité Congo, prévu le 7 avril dans la capitale française, est donc finalement reporté. Les bénéfices doivent être reversés aux victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Mais la date coïncidait avec le coup d'envoi des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Cela avait donc provoqué une levée de boucliers. L'UNICEF s'est même désolidarisé. Au final, Wely Diallo, c'est donc le préfet de Paris, saisi par la ville de Paris, qui a demandé le report de l'événement à une date qui reste à fixer.
Face à la polémique, les organisateurs du concert ont rappelé leur position. Nous affirmons avec force que notre démarche n'a jamais eu vocation à heurter qui que ce soit, ni à s'opposer à d'autres combats mémoriels, a insisté l'équipe de Solidarité Congo. C'est la ville de Paris qui avait demandé au préfet de police d'interdire le concert. Depuis plusieurs semaines, les associations rwandaises demandent ce report au vu de la charge symbolique du 7 avril qui lance la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Le président de la communauté rwandaise de France avait même appelé à des manifestations si la date ne changeait pas. Entre-temps, l'UNICEF, l'agence onusienne de protection de l'enfance, qui devait récupérer les recettes récoltées pendant ce concert, a décidé de se désolidariser de l'événement. Les organisateurs ont donc fini par céder à la pression et accepter de reporter le concert. Ceux qui ne pourront pas assister à la nouvelle date seront remboursés. Avec Guy de Besbar, Gims ou encore Youssoupha en tête d'affiche, l'événement est organisé au profit des enfants victimes du conflit de l'Est de la RDC.
Wely Diallo, et une nouvelle alerte dans le même temps sur la situation dans l'Est de la RDC. Elle vient du Programme Alimentaire Mondial et de la FAO, l'Agence onusienne pour l'agriculture et l'alimentation. Les deux institutions rapportent des niveaux inédits d'insécurité alimentaire. Selon elle, un nombre alarmant de 28 millions de personnes, plus du quart des 100 millions d'habitants de RDC, sont actuellement confrontés à une faim aiguë. Un nombre qui a augmenté de plus de 2 500 000 personnes depuis la dernière flambée de violence en décembre. L'inquiétude autour du Soudan du Sud, au lendemain du placement en résidence résidence surveillée du vice-président Riek Machar. Son parti, le SPLM-IO, dénonce cette situation en affirmant qu'elle signe l'abrogation de l'accord de paix de 2018 conclu avec le président Kiir. Et de nombreuses chancelleries ont donné de la voix également pour réclamer un cessez-le-feu et la libération de Riek Machar, message envoyé dans un communiqué commun par les ambassades des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Norvège et de l'Angleterre. La diplomatie kényane se mobilise elle aussi. Le président Ruto a dépêché un envoyé spécial pour le Soudan du Sud en la personne de Raila Odinga. Il est d'ailleurs attendu sur place à Djouba dès aujourd'hui. Au Soudan voisin, alors que l'armée confirme ce matin avoir repris le contrôle total de Khartoum après avoir annoncé sa libération mercredi soir, et bien de leur côté, les paramilitaires des forces de soutien rapide affirment qu'elles n'en resteront pas là. Il n'y aura ni retraite ni reddition, annonçait-elle hier en affirmant avoir repositionné leurs troupes. 5 ans de prison ferme en Algérie pour Boualem Sansal, voilà la peine prononcée hier contre l'écrivain franco-algérien à 80 ans atteint d'un cancer. Il a été reconnu coupable notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et la stabilité des institutions algériennes. Condamné pour des mots tenus dans un média français en octobre dernier, malgré les nombreux soutiens qui l'ont défendu jusqu'au sommet de l'État français. Ce dossier a créé des tensions avec Alger et le président français affirme souhaiter que Boualem Sansal puisse redevenir libre. Emmanuel Macron dit compter à la fois sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes. On le comprend entre les lignes. Pierre Firsion, le président français, évoque ici l'hypothèse d'une grâce.
Après des mois de tension, l'heure semble être à l'apaisement entre Paris et Alger. Par médias interposés, les présidents Macron et Tebboune ont ouvert la voie au dialogue la semaine dernière, dialogue qui est visiblement sur le point de reprendre. Anne-Claire Legendre, la conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président Macron, c'est selon nos informations rendu mardi à Alger. Un déplacement discret pour, selon certains médias, préparer une visite de Jean-Noël Barrot début avril en Algérie. Le ministre français des Affaires étrangères ne s'interdit aucun moyen d'action sur ce sujet, comme sur les autres, y compris de se rendre en Algérie, commente-t-on de sources diplomatiques. Or, selon un bon connaisseur du dossier, impossible pour le chef de la diplomatie française de se rendre sur place si Boualem Sansal est toujours en prison. Le scénario d'une grâce présidentielle serait donc sur la table, une grâce qui pourrait intervenir, selon le spécialiste Hasni Abidi, avant le 5 juillet et la fête nationale, en raison de l'état de santé de l'écrivain et de son âge avancé.
Pierre Firsion. Un blog réputé pour son indépendance d'esprit, suspendu hier au Burundi, le Yaga Burundi, suspendu par le Conseil national de la communication, officiellement parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas retrouvé l'acte d'agrément dans ses archives et considère que celui déposé au CNC est donc un faux. Les responsables de Yaga Burundi, qui ont appris cette décision par les réseaux sociaux, se disent surpris. Ils rappellent que leur association avait bel et bien été agréée en son temps. Ouvert hier à Paris, le sommet Nutrition for Growth s'achèvera aujourd'hui avec à la clé 27 milliards de dollars promis par l'ensemble des acteurs pour redonner un élan à la lutte contre la malnutrition. Un fléau mondial qui touche plus de 700 millions de personnes et le continent africain en premier lieu, avec un constat fait lors de ce sommet. La guerre en Ukraine comme la baisse des aides américaines ont été un électrochoc. Les États africains cherchent donc à être plus autonome sur le plan alimentaire, moins dépendant de l'extérieur et des exportations. Sur le terrain, Charlotte Cossé, les différents acteurs cherchent ainsi des solutions.
L'impulsion peut venir de la base, plaide Alice Rouweza, présidente de l'AGRA, une organisation africaine qui travaille à la transformation des systèmes agricoles sur le continent.
Parfois, on a l'impression qu'il n'y a que de grosses entreprises. Quand on a commencé, les semences venaient uniquement de grandes entreprises privées et cela faisait débat. Ce que nous avons fait, c'est de nous en procurer localement. Nous avons créé une plateforme pour permettre aux petits exploitants de venir produire des semences et de les mettre à disposition de nos petits agriculteurs.
Autre élément d'importance pour faire face à la baisse des financements, la mobilisation des capitaux. Pour le Fonds international de développement agricole, le FIDA, cela nécessite d'adapter les modèles. Alvaro Lario, son président.
À l'avenir, il sera très important que les institutions telles que la nôtre, les banques publiques de développement, favorisent un modèle dans lequel leurs fonds ne servent pas seulement à financer un projet, mais aussi à catalyser des fonds et à s'assurer qu'ils mobilisent le secteur privé. Pour nous, cela signifie par exemple développer des garanties de crédit partiel, créer des plateformes à travers lesquelles nous prenons le premier risque et le secteur privé s'engage ensuite.
Une dynamique
qui doit être également politique. Le FIDA pointe le besoin de régulation et d'écosystèmes favorables pour faciliter les investissements des petites entreprises.
Charlotte Cosset pour le sommet Nutrition for Growth qui se refermera aujourd'hui à Paris. Quand la cupidité humaine n'a que peu de limites dans le sud-est du Tchad, l'ONG Africa Parks confirme que des braconniers ont abattu les deux dernières rhinocéros noirs femelles du parc de Zakouma. Les carcasses ont été retrouvées cette semaine, à peine 3 mois après l'abattage de 3 girafes dans ce même parc national. Et si l'on parle de cupidité, c'est parce que sur le marché noir, le kilo de cornes de rhinocéros rapporte plus aux braconniers que l'or ou la cocaïne pour les trafiquants. Environ 70 000 dollars le kilo pour des vertus prétendument thérapeutiques. C'est un fléau, Nadia Ben Mahfoud, pour une espèce menacée d'extinction.
Les enquêtes sont lancées et le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable se dit déterminé à mener des actions d'envergure pour retrouver ces braconniers. Mais pour plusieurs responsables de la lutte anti-braconnage en Afrique, même si l'abattage de rhinocéros pour leurs cornes est majoritairement commandité par des gangs internationaux du sud-est de l'Asie, s'attaquer à 2 rhinocéros au Tchad leur semble étonnant. Pour eux, il existe d'autres zones plus accessibles avec plus de rhinocéros. Le parc de Zakouma étant hautement protégé par des gardes armés et très bien équipés, l'acte semble donc opaque. Pour endiguer le braconnage et afin de protéger les espèces menacées, le gouvernement tchadien a mis en place une gestion de ses parcs nationaux en collaboration avec des ONG internationales de conservation, notamment African Parks à Zakouma. Pour le docteur Dolmia Malachi, spécialiste tchadien en conservation de la biodiversité, c'est cette formule qui avait permis de réintroduire les rhinocéros à Zakouma. Il estime que malgré la douloureuse nouvelle de l'abattage de ces 2 rhinocéros, le travail fait à Zakouma doit continuer à être appuyé par les autorités. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Et c'est donc au Tchad sur la bêtise humaine que se referme notre journal. Mais la matinale continue avec Julien Coquelle-Rohem.